Bonjour. Alors, le rôle du modérateur, avant de modérer quoi que ce soit, c'est de présenter les intervenants. Alors, à ma gauche, Brandon Sanderson. Avant de vous le présenter plus avant, j'ai une question fondamentale à vous poser. Pour savoir exactement pourquoi il est ici, à côté de Brandon Sanderson, Lionel Davous, qui est auteur lui-même, couronné déjà au Festival du Pinal, et qui est traducteur. Excellent traducteur, excellent auteur également. À la première question que je voulais poser avant de passer au vif du sujet, c'est Brandon Sanderson, vous êtes ici à quel titre? Parce que si on lit la série des trois romans publiés en France d'Alcatraz, on s'aperçoit que Alcatraz Smedri, le personnage principal, prétend que ce sont ses mémoires, que c'est lui qui les a écrits et que, comme il ne voulait pas se faire repérer par les infâmes bibliothécaires, il a trouvé un prête-nom et il a choisi Brandon Sanderson, qui est un auteur de gros pavés de fantasy, en se disant, voilà, ce sera un beau camouflage. Alors, est-ce que vous êtes vraiment les auteurs des mémoires d'Alcatraz Smedri, ou c'est un contrat futur, j'espère, avec l'auteur?
Yes, well, Alcatraz used my name at first without my permission. And so I tried to get back at him in any way I can by taking the glory for his books.
Donc en fait, au début, Alcatraz a utilisé mon nom sans me demander la permission. Donc en fait, j'ai essayé de prendre ma revanche en récupérant, en m'octroyant, en m'accaparant toute la gloire possible en utilisant ses livres.
Alors, on va présenter donc Brandon Sanderson. Il est l'auteur de gros pavés de fantasy, comme le dit d'ailleurs Alcatraz. Et si vous voulez en savoir plus, je vous donne rendez-vous dimanche où je passerai Brandon Sanderson à la question sur ses autres ouvrages. Mais on va continuer à explorer les mémoires d'Alcatraz Smedri avec deux autres questions. La première, avez-vous été emprisonné à trois reprises pour abus de calembour, comme le prétend Alcatraz?
I actually worked as a librarian for a while, which is part of why I love poking fun at librarians.
En fait, j'ai travaillé comme bibliothécaire pendant un temps, ce qui est une des raisons pour laquelle j'aime bien me moquer un petit peu des bibliothécaires.
I found that librarians have a reputation for being dull and quiet, but this is not true. The librarians I knew were very fun people.
J'ai découvert que les bibliothécaires avaient la réputation d'être des gens plutôt mornes et silencieux, mais j'ai découvert que c'était pas vrai. Ceux que j'ai rencontrés étaient plutôt des gens amusants.
And so I wrote these books in part to have fun with that persona. A lot of my librarian friends complain that people talk about how boring librarians are.
Et donc j'ai écrit ces livres un petit peu justement pour jouer avec cette persona. Il y a beaucoup de mes amis bibliothécaires qui se plaignent du fait qu'on considère que les bibliothécaires sont justement des gens mornes et ennuyeux.
And so when they read these books, oftentimes their response is to jokingly try to throw me in prison or do various things to me. So that's actually somewhat true in some ways.
Et en fait, quand ils lisent ces livres, eh ben, ils essayent de répondre en plaisantant, en me jetant en prison, en faisant état de misère. Donc en fait, il y a peut-être un petit fond de vérité là-dedans.
La troisième et dernière question, puis on passera à l'œuvre, c'est est-il vrai que vous êtes la deuxième cause majeure de cancer chez les sauves-souris frugivores domestiques, comme le prétend Alcatraz?
And it's just the second major cause of cancer in the food-eating domestic bats, as Alcatraz says.
Yes, I am, indeed, and I am sometimes the leading cause. It depends on how I do my hair in a given day.
Oui, c'est vrai, et je suis même parfois la cause première. ça dépend comment je me coiffe pour, le, pour la journée.
Ouais, c'est les éclaircissements absolument indispensables avant de passer à l'œuvre. Alors, les trois romans d'Alcatraz publiés chez Mangon en France sous la direction de Le Petit qui est là. Il y en a un quatrième qui devrait sortir bientôt en France. Alors, ce sont ils ont deux caractéristiques. La première, c'est que ce sont des romans de fantasy. Et la deuxième, ce sont des romans humoristiques. Alors, pour vous donner un petit peu une idée du côté humoristique, je vais vous lire un passage du premier roman qui s'appelle Alcatraz contre les infâmes bibliothécaires. Je suis écrivain. Vous avez peut-être remarqué que j'ai commencé mon histoire dans le vif du sujet. Il y avait du danger, du suspense, et puis je suis rapidement passé à une description ennuyeuse de mon enfance. Bon, bien ça, c'était pour vous prouver ce que je me tue à vous répéter. Je ne suis pas un type sympa. Est-ce qu'un type sympa vous appâterait avec une scène aussi excitante et vous obligerait ensuite à attendre pendant presque 2 bouquins avant d'y revenir? Est-ce qu'un type sympa écrirait un livre dévoilant la véritable nature du monde à vous autres pauvres ignorants? Ignorant de chutelandais, histoire de plonger vos vies dans le chaos total. Est-ce qu'un type sympa écrirait un livre qui montre Alcatraz Medri, le plus grand héros des royaumes libres, n'était en fait rien qu'un sale gosse? Bien sûr que non. Alors, l'humour dans les romans d'Alcatraz, ils viennent principalement de la manière dont l'auteur, Brandon Sanderson ou Alcatraz, lui-même, insère constamment des commentaires sur le livre en train d'écrire, en train d'être écrit et d'être lu.
Yes, fiction is about, in my mind, how the words on the page interact with the reader who experiences them.
À mon sens, la fiction traite tout ce dont elle parle, c'est la façon dont les mots sur la page interagissent avec l'esprit du lecteur.
And so, for instance, I don't think that a story really lives. It doesn't breathe. It doesn't come alive until there's a reader to experience it.
À mon sens, j'ai pas la sensation que une histoire vive, respire vraiment, tant qu'il n'y a pas un lecteur pour venir et lui donner justement cette vie.
And so, with the Alcatraz books, I very much wanted to interact with the reader in a different way. By having a story, and yet having the character offer their own commentary on the story, which in many ways would be a direct contrast to what the reader was thinking as they experienced the story.
Et donc en fait, avec les romans Alcatraz, j'avais envie d'interagir avec l'esprit du lecteur d'une façon différente, c'est-à-dire d'avoir une histoire où en fait la personne qui l'a vécue offre un commentaire sur cette histoire qui est en contraste direct avec ce qu'on peut déduire ou penser des événements qui sont en train de se dérouler.
Donc c'est un humour de la distance, de la distanciation.
Yes, yes, you could say that, definitely. It is, and part of the humor, I think, is that I want to interact with the form, the actual shape of a novel. Often when we're reading, we ignore the shape. And I'll explain more.
Oui, effectivement, on peut tout à fait dire ça. En fait, une partie de l'humour des livres vient de la façon, vient de mon désir d'interagir avec la forme d'un roman. D'une façon différente, parce que qu'en fait, quand on lit, souvent, on ignore cette forme.
For instance, there is one place in the books where I write a sentence upside down, making the reader turn the book upside down to read it, but then the sentence says, "Now don't you look silly for reading a book upside down."
Par exemple, dans un des livres, il y a un endroit où il y a une phrase qui est écrite donc à l'envers, renversée comme ça. Donc du coup, ça force le lecteur à retourner le livre pour le lire, et en fait, la phrase, c'est: vous n'avez pas l'impression d'avoir l'air un peu bête en lisant un livre à l'envers?
And so the idea is from that to make the reader part of the joke. not just a spectator of the joke, but a part. The same thing happens at the beginning of the book, where Alcatraz introduces a scene that's exciting, then leaves a cliffhanger, and then makes fun of the reader for wanting to read that cliffhanger that he does not give the reader. And so in that way, you actually get to enter into the story and the humor, I think, in a different way.
Donc en fait, le but c'était pas que le lecteur soit seulement spectateur d'une plaisanterie ou d'une blague, mais de qu'il en soit partie intégrante. C'est un peu comme la scène que vous avez lue au début du premier roman où Alcatraz introduit une scène très excitante qui se termine sur un cliffhanger et qui ensuite se moque des attentes du lecteur qui voulait avoir la suite. Et donc quelque part, ça pousse le lecteur à entrer dans l'histoire et dans l'humour d'une façon où il en fait partie.
Des fois, vous utilisez des procédés extrêmement pervers, parce que dans un des romans, vous mettez une fausse fin pour punir les lecteurs qui commencent les livres par la fin.
Yeah, that really annoys me when people read the endings first, and so I tried to trap them in any way I could.
Oui, ça m'embête vraiment quand les gens commencent à lire le livre par la fin, donc j'essaie de les piéger de toutes les manières possibles.
Bien, vous savez, un genre de roman dans lequel la fin est importante, c'est le roman policier, et dans un film italien, il y avait le frère et la sœur qui se détestaient, et la sœur prenait le roman policier du frère et arrachait les dernières pages, ce qui était une torture très subtile. Ne savait jamais qui était le copain.
Right.
Maintenant, on va passer à la fantaisie. On reviendra à l'humour. D'ailleurs, on va y revenir tout de suite parce que dans la fantaisie, il y a plusieurs grands thèmes. Le premier, évidemment, c'est le thème de la magie. Et Alcatraz Vedry, comme d'ailleurs les membres de sa famille, ont des dons magiques. Et ces dons magiques, souvent, ils ont des effets humoristiques. Par exemple, Alcatraz casse tout. Mais il a aussi un oncle qui se perd tout le temps, mais qui se retrouve tout le temps aussi. Donc, une part de l'humour, c'est aussi l'utilisation des talents.
Yes, this is again coming into the theme I wanted to do with these novels.
Ça a à nouveau trait en fait au thème. Ça concerne à nouveau le thème que je voulais traiter avec ces livres.
In this case, when I was developing these novels, I wanted to find ways to put the readers into the novel. And instead of picking superpowers such as flight or the sorts of things that that superheroes often have, I wanted to use things that seemed unremarkable, that seemed normal, that people did.
Donc ça vient donc quand j'ai c'est bon. Hop. Donc quand j'ai construit ces livres, en fait, ça vient à nouveau, c'était une façon d'essayer de placer le lecteur au centre du livre. Donc au lieu d'avoir des super pouvoirs comme pouvoir voler, etc., je voulais prendre des pouvoirs qui semblaient des choses plutôt normales et que les gens font d'ailleurs de façon plutôt quotidienne.
But another one of the reasons why I wrote these books was looking at myself as an adolescent and seeing who I was. And trying to take some of the things that I did that I was embarrassed about and show how instead they could become remarkable powers, even magical talents.
Une autre raison, c'est que je me suis un peu revu quand j'étais adolescent, la personne que j'étais, et quand je faisais des choses qui me gênaient ou qui m'embarrassaient, et j'ai essayé de faire en sorte que, au lieu que ce soit justement des choses embarrassantes, et ben, ce soit plutôt des pouvoirs remarquables.
The best example of this is Alcatraz's grandfather. His superpower, his magical talent, is arriving late to appointments.
Un exemple de ça, par exemple, c'est le grand-père d'Alcatraz, son don magique, son talent, c'est d'arriver en retard partout où il va.
And this seems, of course, like not a talent at all. It seems like something very unremarkable. And yet his grandfather will use it for arriving late to a bullet that's about to hit him.
Donc c'est quelque chose qui ne ressemble pas vraiment à un talent magique, c'est plutôt quelque chose qui ne se remarque pas. Mais le grand-père d'Alcatraz s'en sert par exemple pour arriver tard, quand on lui tire dessus, il arrive en retard avec sa collision avec la balle.
And of course the metaphor is the idea, particularly for young people reading these books, that many things that seem like a disadvantage to you at the start can be turned to an advantage if you channel them in the right way.
Et la métaphore, bien sûr, en particulier pour les jeunes lecteurs, c'est que beaucoup de choses qu'on fait et qui ressemblent à première vue à un désavantage, on peut en fait les renverser et en faire des avantages si on sait les orienter et les canaliser de la bonne manière.
For example, I often got in trouble as a youth for daydreaming too much instead of paying attention in class. And this got me into trouble, rightly so, because I would ignore what I was supposed to be doing. And yet, if you look at what I do right now, my career is to daydream. And so this thing that could get me into trouble could also be a great advantage.
Et, par exemple, en ce qui me concerne, souvent je m'attirais des ennuis en classe, en particulier parce que je rêvais, je baillais aux corneilles un petit peu, je pensais à autre chose. Et au lieu d'être concentré sur ce que j'étais censé faire, évidemment, ça m'apportait, à juste titre, d'ailleurs, pas mal de problèmes en cours. Mais bon, vous voyez maintenant ce qui m'arrive, c'est que je fais un métier où mon travail, justement, consiste à rêver en permanence. Et c'est devenu un avantage.
Alors, dans les romans de fantasy, on va revenir sur les talents tout à l'heure, mais dans les romans de fantasy, pour préciser un petit peu, il y a notre monde réel et puis il y a ce qu'on appelle des mondes secondaires. Alors dans les romans d'Alcatraz, d'un côté il y a le monde dans lequel nous vivons, qu'on appelle la Biblie ou Shetland, et puis il y a d'autres mondes. Dans lequel Alcatraz va aller dans le troisième tome.
Yes, indeed. And this is a very common theme in fantasy, for many reasons, I think. One of the primary reasons is I do think that we reading fantasy, we love to read these books to explore a different world, to look outside, and we like using the parallel nature of our world and a fantasy world in order to show that contrast. You see it in Harry Potter, you see it in things like the Narnia books, and that contrast is part of what makes the fantasy world's vibrance come alive.
Oui, d'ailleurs c'est un thème très commun en fantasy et pour un tas de raisons. Une des premières raisons, une des principales, je pense que c'est nous qui lisons de la fantasy. Nous aimons lire à propos de ces mondes différents, nous aimons les explorer. Et en nous servant d'un parallèle entre notre monde à nous et ces mondes de fantasy, en explorant ce contraste, on aime explorer justement ce contraste. Il y a plein de livres qui font ça, par exemple les Harry Potter ou les Narnia. Et c'est justement ce contraste qui donne toute sa vibration, toute sa force à ces mondes de fantasy et qui les fait devenir vivants.
And if I get into a more literary reason, since this is a conference on the nature of the fantastic, I think part of the reason literarily that we do this is because it allows us to introduce character in a more familiar setting, which allows the reader to become familiar with the character initially, before the fantasy aspect happens. Because one challenge of writing a fantasy novel is that there are so many new terms, new names, new ideas, and even new laws of physics that it can be very difficult for a reader to begin one of these books.
Et la deuxième raison, qui est plus une raison, disons, littéraire, puisqu'on est plus dans une conférence, disons, sur la nature du fantastique, donc une raison de nature plutôt littéraire et théorique, c'est que cela permet de prendre un personnage, de l'introduire dans un cadre qui nous est familier à tous, et puis d'introduire progressivement, au fur et à mesure du trajet du personnage, les éléments de fantasy. Donc on construit d'abord une familiarité avec le personnage, ensuite on le place dans cet autre monde, parce que c'est un défi, quand on parle d'écrit de la fantasy, pour le lecteur et pour l'auteur, parce qu'il y a tout un tas de nouveaux termes, de nouveaux noms pour les choses, de nouvelles idées, parfois même de nouvelles lois de la physique qu'il faut introduire et avec lesquelles il faut que le lecteur se familiarise. Et ça peut être difficile pour le lecteur, parfois.
Alors, pour continuer avec les mondes secondaires, d'un côté, le monde réel, c'est notre Shetland ou la Ghibli. On reviendra un petit peu là-dessus un peu plus tard. Et de l'autre, c'est les royaumes libres, dont un dont on connaît le nom, puisqu'il figure dans le titre du troisième, Nalhalla. Est-ce que c'est un rapport avec le Walhalla?
Yes, there is. When I am naming a lot of my my worlds and my terms, I tend to look toward mythology for the nature, because it has a resonant nature. Resonant meaning inside of us something feels familiar about it. And storytelling is often about the idea of blending something familiar with something strange. If you look at the simplest example of something like a unicorn, you take the familiar, which is a horse, and you add the strange, which is a horn on a horse's head, and suddenly you have imagination.
Donc, oui, je baptise souvent les termes, les mondes en fantasy, en revenant un peu à la mythologie. Parce que la nature de la mythologie, c'est qu'elle résonne en nous, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose en nous qui paraît familier. Quand on revient à la mythologie, je pense que le fait de raconter des histoires, c'est souvent l'art de mélanger le familier avec l'étrange. L'exemple le plus simple, c'est une licorne, par exemple. Donc vous avez le plus familier, qui est le cheval, et puis de l'étrange, qui est cette corne sur la tête du cheval. Et en faisant ça, vous avez un élément d'imagination.
Alors le troisième trope classique de la fantasy, c'est la lutte du bien contre le mal, les bons contre les méchants. Et dans Alcatraz, d'un côté il y a les bons, de l'autre il y a les méchants. Et les méchants, c'est les bibliothécaires. Alors, dans la trilogie, on va évoluer, parce que dans le premier tome, les méchants, c'est les bibliothécaires. On découvre que c'est des méchants parce que, à nous autres, Shetlandais, ils nous font croire des choses qui n'existent pas. Notre histoire telle qu'on vous l'a appris, notre vie, Alcatraz découvre que tout ça c'est faux, que c'est un complot des bibliothécaires.
Yes, and where this came from is that, oh, thank you very much. Where this came from is that our world is changing, and we wrote science fiction in the early days. We used to write about spaceships and getting off the world and all this fabulous technology. And yet that revolution never happened. What happened instead was an information revolution.
Oui, alors là d'où cette idée-là est venue, c'est que principalement notre monde est en changement. Par exemple, au début, quand on écrivait de la science-fiction, on avait tendance à parler souvent de vaisseaux spatiaux qui exploraient de nouveaux mondes avec une technologie fabuleuse. Et cette révolution-là n'est jamais arrivée. À la place, on a eu une révolution qui porte sur l'information.
And this is very interesting to me, that our science fiction revolution, the fiction that became true, is all about information. And the people who control the information in our society tend to be the people with the greatest power. For instance, if we look at something simple that happened recently, the release of documents by WikiLeaks. This person was able to wield a great deal of power simply by information that was released.
Et c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. C'est-à-dire que notre révolution science-fictionnelle, la révolution science-fiction qui est arrivée dans notre monde, celle qu'avait prophétisée la SF et qui s'est véritablement concrétisée, concerne quasiment exclusivement l'information. Et en fait, c'est dans notre société, on tend à constater que les gens qui contrôlent le plus d'informations sont ceux qui tendent à détenir le plus grand pouvoir. Il y a un exemple simple de ça qui s'est reproduit récemment et que je trouve très intéressant, c'est par exemple la révélation de documents par le site Wikileaks. Et en fait, ces personnes-là, pendant un temps, ont détenu un très grand pouvoir simplement en révélant, en libérant des informations.
We are entering an age where information is no longer wielded only by the elite, where the common people have access to fantastic amounts of information.
Et nous arrivons à une époque où l'information n'est plus seulement entre les mains d'une élite, mais l'homme de la rue peut également avoir accès à une quantité absolument phénoménale d'informations.
And so, in these books, I wanted to write a war about information. And maybe a classical fantasy novel, the war may be about giving swords to the peasants to fight back. And in this book, instead, it's about giving information and then fighting back with that information, and about who controls the information.
Dans ces livres, j'avais envie donc de parler d'une guerre qui portait sur l'information. Dans un roman de fantasy classique, on peut par exemple, on voit ça souvent, imaginer qu'on donne des épées à des paysans pour qu'ils puissent combattre et se défendre. Dans ces livres, c'est plutôt une question de donner la bonne information aux gens pour qu'eux puissent se défendre et se battre. Et c'est une question de contrôle de l'information.
And I didn't choose librarians because I dislike them. I chose them for two reasons. Number one, it was funny. Thinking of evil librarians still makes me laugh. And number two, because there's a seed of possible truth. They control information in our society. And that information can be wielded in many different ways. We have seen in our world information wielded for evil purposes. We've seen it wielded in good for good purposes. And I wanted to postulate a world where the librarians who control all the information, some of them were using it for very wrong purposes.
Alors, je n'ai pas choisi les bibliothécaires parce que j'aime pas les bibliothécaires. Il y a eu deux raisons principales à ça. Tout d'abord, c'est parce que je trouve ça drôle. L'idée d'avoir des bibliothécaires maléfiques, ça continue même aujourd'hui à me faire marrer. La deuxième chose, c'est qu'il y a peut-être là le germe d'une vérité possible. C'est-à-dire que ces gens-là, les bibliothécaires, ont le contrôle sur l'information qui circule dans notre société. Et l'information peut être maniée d'un tas de manières différentes. On peut les manier à des fins qui sont positives comme à des fins qui sont négatives. Et donc j'avais envie de postuler l'existence d'un monde où justement les bibliothécaires qui contrôlent l'information, certains d'entre eux s'en servaient pour des fins très, très néfastes.
Alors toujours l'exploration des bibliothèques et des bibliothécaires, le deuxième volume, vous avez situé l'intrigue quasiment entièrement dans un lieu extraordinairement mythique, qui est la bibliothèque d'Alexandrie. Bibliothèque dont on sait qu'elle a représenté une somme de connaissances extraordinaires pendant l'Antiquité grecque et pays environnants, et bibliothèque qui a disparu et sur lequel on a relativement peu d'informations. C'est quand même assez étonnant dans un roman de fantasy pour la jeunesse américaine de choisir un lieu comme la bibliothèque d'Alexandrie, une des sept merveilles du monde.
I have always been fascinated by the Library of Alexandria, both the real place and the mythology of the place. Perhaps because I'm a book person and I'm fascinated by books.
J'ai toujours été fasciné par l'histoire de la bibliothèque d'Alexandrie, à la fois le lieu véritable et toute la mythologie qui l'environne. Peut-être parce que je suis un tel passionné de livres, j'ai toujours adoré ça.
And I chose the location very consciously, partially because of that mythological import, but also because I wanted with these books to be talking about such topics. No, it is not something you normally see in a book written for this age group, but there's something about writing these books that made me want to not just be silly, but also be solemn at the same time.
J'ai choisi ce lieu de façon très volontaire et consciente, en partie à cause de l'importance mythologique qui l'environne, mais également parce que je voulais aborder ces sujets. C'est vrai que c'est pas quelque chose dont on parle habituellement dans des livres qui sont destinés à cette tranche d'âge, mais il y avait quelque chose dans ces livres, j'avais envie de les écrire, je voulais pas seulement faire l'idiot, je voulais également parfois être solennel en même temps.
This is partially allowable because of the genre, the children's genre. It seems that, writing for adolescents, they are much more willing to accept a lot of variety in a book. They will allow a book to be many different genres at once, whereas many of the adults I know don't like that nearly as much. They want their book to be a certain genre and stick to it.
Et je pense que c'est on peut le faire en partie dans ce genre, dans la littérature jeunesse, parce que quand on écrit pour les adolescents, en fait, on se rend compte qu'ils sont beaucoup plus disposés à accepter de la variété dans un livre. Ils sont beaucoup plus prêts à ce qu'un livre couvre et puise dans toute une variété de genres. Ce qui est à la différence des livres pour adultes, où on a l'impression que les adultes préfèrent que un livre d'histoire reste davantage dans le genre qu'il prétend être.
And if you read the books, you will find some of my loves scholarly showing up quite often. In fact, for instance, my love of classical philosophy shows up in the books quite regularly. The first book discusses Plato's Allegory of the Cave, for example, and each of them actually discusses one basic Greek allegory from one of the classic philosophers.
Et quand on lit ces livres, je pense qu'on voit aussi transparaître un certain nombre de mes intérêts académiques. Assez souvent, par exemple, on voit assez souvent apparaître des éléments de philosophie classique. Dans le premier livre, par exemple, je parle de l'allégorie de la caverne de Platon et on la retrouve à peu près à travers tout le livre. Et je pense que dans chaque livre, on retrouve une allégorie basique de la philosophie grecque, fondamentale.
Alors justement, peut-être un concept philosophique un peu plus subtil, l'ordinaire, dans les romans de fantasy, la lutte entre le bien et le mal est une lutte tranchée. Or, dans vos romans d'Alcatraz, petit à petit, on s'aperçoit que peut-être un personnage de méchant, ou plus exactement de méchante, est peut-être mu par d'autres raisons que d'être maléficieuse. C'est la mère d'Alcatraz.
Yes, this is most apparent in the book you haven't read yet, which is the fourth book, but one of the adages I live by in writing books is that every person feels that they are the hero in their own story.
Alors il y a beaucoup d'éléments là-dessus qui sont traités dans le quatrième livre et qui donc n'est pas encore publié en France, mais un des adages que je garde à l'esprit quand j'écris, c'est que chaque personnage a l'impression qu'il est le héros de sa propre histoire.
And villains in stories do not usually think they are the villain. They, in their own head, they are more interesting to me at least, if they are like a real person. And most villains in our world think they are the heroes in their story. And so when I write an antagonist in my books, I try very hard to give them it's like doing honor to my own characters If I make them evil simply to be evil, they won't be real to me, and then they won't be real to the character.
Donc, je pense que tous les personnages magnifiques, les méchants dans les histoires, aucun ne se considère comme étant les adversaires ou des personnages magnifiques. Je pense que s'ils se considèrent comme étant les héros de leur propre histoire, ça en fait des personnages plus intéressants, plus authentiques. Je pense que c'est vrai aussi avec les criminels et les personnes mauvaises de notre monde. Ils se considèrent eux-mêmes comme les héros de leur propre histoire. Donc, mes antagonistes dans mes histoires, j'essaie justement de leur donner cet élément. Et je pense que c'est surtout faire honneur à mes personnages. S'ils sont juste maléfiques pour être juste maléfiques, j'ai pas la sensation qu'ils seront réels ou authentiques. En tout cas, ils ne le seront pas pour moi et je pense pas qu'ils le seront pour le lecteur.
Alors, il y a un autre aspect dans Alcatraz. On voit évoluer de roman en roman, c'est qu'il y a un personnage féminin qui a à peu près le même âge qu'Alcatraz, qui est Bastille, et on sent bien qu'entre les deux se nouent des sentiments qui ne s'expriment peut-être pas tout à fait vraiment.
Yes, that's because they're 13 and they're just bad at expressing things like that. I don't know if any of you were good. I mean, you're French, so maybe you were great at it. but I certainly wasn't when I was 13.
Ben oui, mais c'est parce qu'ils ont 13 ans et qu'ils sont juste pas très doués pour exprimer ce genre de choses. Moi, je sais qu'à leur âge, j'étais pas très très bon pour écrire ce genre de choses. Je sais pas vous. Bon, alors vous êtes français, donc peut-être que vous savez faire ça très bien. Mais en tout cas, moi, je sais que je savais pas faire ça.
Bah, je peux vous rassurer, moi, j'ai pas été très doué non plus pendant très longtemps. Alors, ce personnage féminin, Bastille, il est aussi extrêmement intéressant parce que il se retrouve dans une position difficile, puisque elle appartient à un ordre de chevalerie, et là on peut peut-être penser au chevalier de la table ronde, si c'est pour une inspiration, et elle perd son arme, et donc elle est radiée de son ordre. Donc un personnage qui se trouve dans une position très difficile pendant deux romans.
Yes, indeed. And looking at why this isn't in the books is because, as a character, she was most interesting to me because of her strength. And so I wanted to throw her into situations in which her strength was in many ways a little bit undermined. Because conflict creates great characters, at least hopefully, if you're doing it right. And for Bastille, the job was to learn to be strong in multiple ways, which is something she hadn't ever had to do. She learned how to be very strong in one way, fantastic fighter. She had to learn other ways of being strong, which makes it... Oh, go ahead.
Alors... Une des raisons, une des choses qui m'intéressait notamment chez Bastille, c'est que c'est un personnage qui est extrêmement fort, qui a beaucoup de force, mais c'est ce qui la rendait intéressante pour moi. Mais justement, je voulais la présenter dans des situations où cette force se trouvait niée, en un sens, ou en tout cas affaiblie, parce que je pense que les conflits font de bons personnages, en tout cas, on l'espère, en tout cas si on fait les choses bien. Et ce que je trouve intéressant chez Bastille, c'est que quant à son parcours, il fallait qu'elle apprenne à devenir forte d'une multiplicité de façons. Elle avait, c'est quelque chose qu'elle n'a jamais eu à faire, elle avait toujours été une excellente combattante, c'est ce qu'on lui a appris, c'était là où se trouvait la base de toute sa force. Mais en fait, elle doit apprendre à devenir forte de tout un tas d'autres manières.
This makes also narratively a nice contrast for Alcatraz, who is a dreadful, awful fighter. He's pretty much useless. Occasionally he comes up with something, but it's more accident than anything else. And yet he is, he has other talents, and the two complement one another quite well.
Aussi, ce qui était intéressant de façon narrative, c'est que ce personnage donnait un bon contraste à Alcatraz, qui lui est un combattant absolument consternant. Il sert quasiment à rien dans un combat. Parfois, il a une idée qui peut éventuellement s'avérer utile, mais en général, il tombe plus dessus par accident, que c'est plus un accident que quelque chose de volontaire. Il a d'autres talents qui s'avèrent utiles, et donc je pense que les deux se complètent bien.
Il est quand même extrêmement brillant à la fin du deuxième tome qui s'appelle Alcatraz contre les ossements du scribe, parce que c'est quand même grâce à lui que son et de manière assez astucieuse que son père est libéré de la bibliothèque d'Alexandrie.
Yes, Alcatraz's greatest advantage is not his superpower, it's his wit, and that is the way I wanted to write the books. He doesn't acknowledge it. But you, as the reader, can see as he writes the books, line by line, as he offers commentary, you can see that it's his intelligence and his wit that is his greatest advantage, but it also gets him into lots of trouble.
Oui, le plus grand avantage d'Alcatraz, c'est pas forcément des pouvoirs extraordinaires, c'est son esprit. Et je voulais que le livre soit tourné ainsi, c'était ce que je voulais faire. Et je voulais que le lecteur puisse le voir au fur et à mesure, entre les lignes, à travers les commentaires qu'il fait sur sa propre histoire. C'est que son plus grand, c'est la puissance de son intellect. Que son plus grand don, justement, c'est son intelligence. Ce qui le tire de plus d'un mauvais pas, mais ce qui également lui attire énormément de problèmes.
Alors une dernière question, et puis peut-être que dans la salle, il y a des personnes qui voudraient intervenir. Je voulais vous demander ce que vous avez contre les lunettes, puisque dans Alcatraz, l'objet magique important, ce sont des lunettes, mais des lunettes qui ont des caractéristiques différentes.
This goes back to me writing this book for my 13-year-old self, who always got made fun of for wearing glasses. And so in these books, I wanted glasses to be awesome. And so I wrote a book where people wore various types of glasses that do awesome things.
Ça revient en fait à l'envie que j'avais d'écrire ce livre pour l'adolescent que j'étais à l'âge de 13 ans. C'est un livre que j'écris pour moi-même à cet âge. C'est à cette époque-là, tout le monde se moquait de moi à cause de mes lunettes. Donc j'avais envie d'écrire un livre où les lunettes étaient super cool. Donc il y a tout un tas de lunettes qui font des trucs super cool.
C'est tout à fait exact. Alors justement, une de ces paires de lunettes est fabriquée avec les sables de Rachid. Alors, est-ce que ce mot Rachid vient des mille et une nuits?
Word Rachid, does it come from the 1001 nights?
The word Rachid is actually the Arabic name for what in English we call the city of Rosetta, where the Rosetta Stone was found, which was chosen very intentionally because of the idea the glasses are actually, we're giving away a little bit of it, but they actually are translation lenses, which allow translating, and that was foreshadowing from one of the early chapters. And again, it comes to this theme of information. And Alcatraz's grandfather explains near the end of the series, they were thinking these glasses would be some super weapon. And to his grandfather, they are because of the information because of the powers of translation. Rather than being able to kill people by staring at them, these lenses do something more powerful. In the terms of the books.
En fait, le mot Rachid est le mot arabe pour la ville de Rosette, dont vient la fameuse pierre de Rosette. Donc ça a été choisi de façon intentionnelle. Bon, c'est un peu dévoiler l'intrigue, mais en fait, ces lunettes, ces verres, sont des verres de traduction. Donc ça avance, c'est une sorte d'amorce pour la suite. Mais il y a une information que donne le grand-père d'Alcatraz près de la fin, c'est que en fait tout le monde pense que ces lunettes forgées à partir de ces sables sont une espèce d'arme, de super arme. Mais le grand-père explique que oui, ils le sont, mais pas en termes qu'on peut tuer des gens rien qu'en les regardant. C'est que ce sont donc des vers extrêmement puissants, puisqu'ils permettent une traduction de beaucoup de choses. Et dans les termes du livre, c'est là qu'est la véritable puissance, puisque ça donne du pouvoir sur l'information. Et donc, selon les règles du livre, c'est effectivement une super arme, mais qui concerne l'info.
Et donc, ça permet de traduire la langue oubliée.
Translate the forbidden script.
Yes.
Voilà, est-ce qu'il y a une question dans la salle?
Any questions?
Is anyone here a librarian? Oh. I'm watching you. I know about you.
La question c'était, y a-t-il des bibliothécaires dans la salle? Et la réponse a été, je vous surveille.
Réponse en William.
En William, sir.
Yes.
Voilà, ben j'espère que cette conférence vous aura donné envie de lire ces romans pour la jeunesse, parce qu'ils sont très drôles.
May I say one thing? They do not have the first one for sale today. There was a mix-up. There are some coming in tomorrow morning. The first one, though, if someone wants to read one, they are very what we call episodic, meaning they can be read out of order. And I personally think the second one of the series is the best of the three published. They're all, I hope, enjoyable. But I think the second is the strongest, and they do have that one for sale.
Je voudrais juste ajouter juste une petite chose, c'est qu'il y a eu un petit cafouillage donc en librairie. Donc en fait, ils n'ont pas aujourd'hui le premier volume en stock. Mais il sera présent dès demain matin. Je vais juste dire que si vous avez envie de lire un de ces livres, ils sont très, ce qu'on dit, épisodiques, c'est-à-dire ils se suffisent à eux-mêmes et on peut un peu les lire dans le désordre, ça pose pas de problème. Et à mon humble avis, le deuxième est le meilleur des trois. Bon, j'espère que tous sont appréciables et qu'on peut en tirer un bon moment. Mais à mon humble avis, je pense que le deuxième est le meilleur si vous avez envie de lire, et celui-là est en stock.
Voilà, je vous remercie de votre attention. Je remercie Brandon Sanderson et je vous remercie Lionel d'avoir brillamment traduit. J'espère que ça vous a donné envie de pénétrer dans l'univers des infâmes bibliothèques.